Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour Pararon, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, direction la Bretagne et le Japon avec le nouveau roman d'Olivier Adam, notre invité. C'est dans un instant. Ensuite, nous lirons un roman culte, bien sûr. Philippe Dussault lira la première page d'un pédigré de Modiano. Nous visiterons la bibliothèque d'un ministre aujourd'hui. Tiens, c'est une première. Enfin, un ministre qui est aussi écrivain. Bruno Le Maire, nous irons nous balader dans une librairie, comme toujours, chez Stanislas Rigaud, cette semaine, librairie Lamartine. Et ce grand enfant de Victor Dolande fermera la boutique avec son roman Jeunesse. Bon, mais ça, vous le savez. D'abord donc, l'invité, La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. On le connaît pour « Je vais bien, ne t'en fais pas », son premier roman. « Vent contraire » aussi, et « L'exil à Saint-Malo » ou « Le refuge », comme on veut. Dans les deux cas, c'est l'histoire d'une disparition et donc d'une recherche de l'autre et donc de soi, forcément. Donc tout peut s'oublier. Son nouveau roman, chez Flammarion, on rencontre Nathan en Bretagne, dans une ville qui ressemble à Dinard, peut-être. Il a eu un fils, Léo, avec June, une japonaise. Mais un jour, elle a mis les voiles, direction le Japon, et Nathan cherche son fils. Se bat et se débat dans la jungle judiciaire japonaise. Encore une fuite, encore une quête. Bonjour Olivier Adam.
Bonjour.
C'est vrai, quand on regarde votre œuvre, on retrouve les mêmes thèmes, éventuellement des obsessions même, je ne sais pas, c'est le cas de certains écrivains. Chez vous, c'est très clair. Ils s'imposent à vous, ces thèmes-là, ou vous allez les chercher ?
Moitié-moitié, c'est-à-dire que moi, je ne m'en suis pas rendu compte hein, au début, en empilant les livres, qu'à chaque fois, il était question de fuite ou de disparition. Enfin, ce n'était pas conscient. Donc ça devait ressortir de l'obsession. Et puis après, il y a des livres qui s'imposent à vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on tombe, par exemple, sur le sujet de l'enlèvement parental des enfants au Japon, et qu'on commence à s'intéresser à ces cas de pères dont la femme japonaise est repartie au pays en emmenant leurs enfants et en soustrayant totalement leurs enfants donc à leur père. Il est question assez vite de fuite, de quête, d'enquête, de disparition, de vivre avec ses disparus, de vivre avec la séparation. Et d'une certaine manière, comme j'ai déjà beaucoup travaillé sur le Japon, j'ai beaucoup séjourné, à un moment donné, quand je tombe sur un article comme ça, il y a des gros warnings, des gros clins d'œil qui disent « Attention, il y a un livre, c'est un livre pour toi ». Et là, je ne me pose plus la question. Je ne me dis pas « on va encore me dire une disparition ou quoi que ce soit ». Je me dis « c'est plus un clin d'œil, quoi. C'est plus le hasard qui met sur mon chemin un sujet. Et puis, je ne vais pas faire la fine bouche, quoi. Si j'ai un sujet de livre et qui répond à mes obsessions et mes thématiques, géographiques, intimes, etc., j'y vais. »
Ah oui, vous commencez le livre, vous avez l'idée, puis au bout d'un moment, vous levez la plume et vous dites « Ah tiens, c'est rigolo, c'est encore une disparition. »
Oui, ou disons qu'on est conscient et inconscient à la fois, oui. Et on sait qu'il n'y a pas de hasard. Quoi. Voilà. Et puis, un sujet comme ça n'arrive pas dans le vide. Il arrive dans un moment où, par ailleurs, d'autres affaires de disparition au Japon qui touchent des gens de mon entourage m'obsèdent et font que je baigne déjà dans des thèmes qui conjuguent et le Japon et le désarroi de ceux qui cherchent leurs proches.
Alors justement, il est question très vite dans le roman de l'affaire de la disparition au Japon de Tiphaine Véron, cette jeune fille française qui est disparue à proximité de son hôtel. Elle a un autre nom dans le livre, mais on la reconnaît. Et on reconnaît les proches qui font face à un mur administratif là-bas. Je me suis demandé au début comment vous alliez les lier, ces deux types d'affaires très différents finalement. Un enfant qui est avec sa mère et qui va a priori bien, puis un enfant qui disparaît, quoi, qui a été peut-être enlevé, peut-être tué, on ne sait pas. C'était le point de départ ?
De plus en plus, moi j'ai l'impression que plutôt que d'inventer des histoires, je collecte des histoires et ensuite, à un moment donné, certaines font sens entre elles ou produisent un frottement qui m'intéresse. Et là, il y avait les enlèvements parentaux au Japon. Il y avait la disparition de Tiphaine Véron. Et il y avait aussi une autre histoire que je raconte dans le livre d'un couple qui perdent le contact avec leur enfant pour cause de radicalisation politique.
Et qui n'a rien à voir avec le Japon.
Qui n'a rien à voir avec le Japon, mais on a deux parents, Nathan et Lise, orphelins de leurs enfants, et qui sont dans un désarroi et d'un chagrin qui est vraiment très difficile à appréhender, même pour eux, parce que voilà, une histoire d'amour, ça porte toujours en soi l'hypothèse de sa fin, de sa propre fin. On sait que ça ne va pas durer forcément, ou que ça va durer, tant mieux. Mais la parentalité, théoriquement, ce n'est pas dans le contrat que ça puisse cesser, qu'on puisse perdre le lien, et en plus sans raison réelle, quoi. Donc il y a ces deux choses-là. Et puis de l'autre côté, le frottement de deux histoires, Nathan à la recherche de son fils, et les frères Tellier, parce que je les ai appelés comme ça, à la recherche d'Alizé, et qui, eux, se heurtent à l'étrangeté, à l'altérité d'un pays qui ne fonctionne pas de la même manière que le nôtre, et à des dédales judiciaires dans lesquels ils n'arrivent pas à se sortir et qui peuvent s'avérer kafkaïens.
Et oui, parce que là-bas, on ne l'a pas dit encore, peut-être certains l'ignorent, mais il n'y a pas d'histoire de droit de garde, etc. Hein, c'est très clair. Si vous voulez voir votre enfant, vous êtes un criminel. Tout simplement.
Oui, c'est-à-dire qu'en cas de séparation, il n'y a pas de partage de l'autorité parentale. Donc, ce n'est même pas qu'il n'y a pas de droit de garde et de droit de visite, c'est que vous n'êtes celui qui n'a pas la garde de l'enfant, et son géniteur, mais n'est pas son père. Enfin, les pères sont, ne peuvent. Ils n'ont aucun recours, quoi. Ils ne peuvent. Voilà. Et à tel point que. Par exemple, dans le cas du livre, quoi, si Jun se remarie, le nouveau mari peut adopter l'enfant et devenir le nouveau père de l'enfant. Et le père légitime, Nathan, lui, est doublement dépossédé. Donc, on se retrouve sans aucun recours. Au Japon, c'est la loi japonaise qui s'applique. Et alors après, c'est une disposition légale, judiciaire, qui est l'héritage, un héritage ancien qui n'a pas évolué avec la société. Et on en est resté aux règles qui étaient celles des mariages arrangés, où quand un couple, c'était l'union de deux familles, la mise en commun de biens, d'intérêts, et quand on se sépare, chacun reprend ses billes, et l'enfant peut faire partie de ses billes, d'une certaine manière, au même titre que les meubles, que la maison, etc. Et ça a toujours été comme ça. Maintenant, au Japon, dans les couples japonais, quand ils se séparent, ça a évolué aussi, mais c'est à l'amiable. Éventuellement, ils peuvent s'organiser et décider que l'enfant voit son père un week-end sur deux ou des choses comme ça, un peu comme en France. Mais si vous devez aller devant la justice, là, aucun droit ne vous sera reconnu. La garde de l'enfant et l'autorité sur l'enfant est donnée à un seul des parents, en général la mère, parce que de ce point de vue-là, de toute façon, le Japon aussi évolue, mais c'est quand même une société où globalement, c'est les mères qui s'occupent des enfants pendant que les parents travaillent, même si ça change beaucoup.
Mais c'est ça ce qu'on ne comprend pas, en fait, parce qu'ils divorcent, bon, bah, c'est la vie. Au début, elle reste en France, donc il a son fils une semaine sur deux. Après, elle part au Japon et rideau, pas de nouvelles ni rien. On pourrait quand même penser que d'abord, elle laisse voir Nathan voir son fils s'il passe au Japon et puis qu'elle donne éventuellement des nouvelles. C'est ça ce qui est très compliqué à comprendre, c'est ce rideau, quoi. C'est terminé.
C'est-à-dire que de toute façon, dès le début, ça se fait. Enfin, d'ailleurs, souvent dans les cas réels, hein, ça se fait par surprise. Parce que, notamment dans le cas d'un couple établi en France, si la femme japonaise annonce à son mari, enfin à son ex-mari, qu'elle va rentrer au pays et qu'elle veut garder l'enfant, l'ex-mari va saisir la justice, va prendre un avocat, et assez vite, elle va perdre. Elle va perdre parce que l'enfant a grandi en France, sa langue c'est le français, sa famille est en France, ses habitudes sont en France. En plus, dans le cas d'espèce du livre, Nathan a une situation plus stable que celle de June. Donc en fait, June, si elle veut rentrer au Japon, elle est sûre de ne pas pouvoir garder son fils à moins de l'enlever, d'une certaine manière. Et donc, c'est le parti qu'elle prend. Donc, dans un premier temps, elle essaye qu'il ne la retrouve pas. Et d'ailleurs, toute une partie du livre consiste à essayer de comprendre, à savoir si Nathan va pouvoir remettre déjà la main sur sa femme et son fils, sans même faire valoir de droit de garde ou d'autorité parentale. Déjà, les retrouver dans un pays où la disparition volontaire est presque sacrée, oui. Et où en plus personne ne va se presser pour aider un ressortissant français à trouver une ressortissante japonaise qui le fuit et qui veut ne plus donner de nouvelles et qui ne doit rien juridiquement. Ils sont séparés, elle est la mère de l'enfant, elle n'a aucun compte à lui rendre.
Le drame, c'est surtout l'impuissance. Et la géographie est toujours très présente dans vos livres, mais là, c'est aussi le fait d'être en Bretagne. côté de Saint-Malo, avec son fils au Japon, on ne peut pas faire grand-chose. C'est ça la souffrance aussi.
On ne peut pas faire grand-chose, et puis en plus, il y a une ironie du sort, c'est-à-dire que Nathan perd son enfant dans un pays, et en vertu des lois d'un pays qu'il adore, un pays pour lequel il a une passion, où il a beaucoup séjourné.
Wow, vous êtes fort, parce que c'était pour la deuxième partie. Ça, restez avec nous, on repart au Japon avec Nathan dans un instant.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
Retour dans La Voix est libre avec Olivier Adam qui publie « Tout peut s'oublier » chez Flammarion, l'histoire de Nathan. Il vit en Bretagne, jusqu'à maintenant il y vivait avec June, la mère de son fils Léo, mais ils se sont séparés et June est repartie au Japon avec Léo et Nathan, lui, n'a pas le droit ni de voir ni d'avoir des nouvelles de son fils. Vous aimez le Japon, Olivier Adam, et Nathan, votre personnage, travaille dans un cinéma du côté de Dinard et il diffuse beaucoup de films japonais parce que c'est un passionné de culture japonaise. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a rencontré June. Il a fait beaucoup de voyages au Japon. Est-ce qu'on peut aimer un pays, une culture, quand on ne peut pas comprendre et accepter ses codes ?
Alors, je crois que d'abord, là où il est pris à son propre jeu, c'est que quand on demande à Nathan comment il se débrouille quand il va au Japon avec une culture si différente de la nôtre, il minore. Il dit ben non, en fait, ce sont vraiment des détails, des coutumes. Et il croit, même s'il ne parle pas la langue, ce qu'il a noté, moi non plus d'ailleurs, il croit, comme moi d'ailleurs, bien connaître ce pays parce qu'il l'a beaucoup arpenté, parce qu'il a rencontré beaucoup de gens là-bas, et parce qu'il s'est beaucoup intéressé à son cinéma, à sa littérature, et même au shintoïsme, au bouddhisme. Enfin, il s'est imprégné de toute cette culture-là. Et d'une certaine manière, il est comme chacun d'entre nous quand on aime et qu'on a investi même la culture d'un pays, c'est qu'on a du mal à comprendre que quelque chose reste inaccessible, que quelque chose nous échappe. Et moi-même, d'ailleurs, ce que j'aime bien dans les premiers retours que j'ai sur le livre, c'est des gens qui me disent qu'ils sont à la fois horrifiés par ces règles juridiques. On pourrait aussi parler de la question de la garde à vue là-bas et de la violence ou de l'indifférence de l'État japonais ou de la loi japonaise sur la question de la parentalité, du partage des droits, etc. Et en même temps, on me dit, ça m'a donné envie d'y aller. Et c'est tout dans ce renversement. D'ailleurs, l'autre ironie, c'est que la brutalité de ce pays qui est caché sous une façade extrêmement polissée, extrêmement sociable, extrêmement civilisée, c'est précisément ce que June reproche à la France. Et qui va d'ailleurs peut-être, on ne le sait pas, mais venir à bout de son amour de la France, ce qu'on appelle le syndrome de Paris.
Voilà, j'allais vous en parler, il y en a des questions dans le livre.
Alors c'est un syndrome dépressif, en gros, hein, qui s'abat sur les Japonais qui séjournent longuement en France. D'abord parce que la distance entre la France et singulièrement Paris et l'idée qu'ils s'en font depuis là-bas est tellement grande, parce que voilà, là-bas c'est Amélie Poulain, c'est la France, c'est Paris des Aristochats, et puis un peu avec du Chanel, avec des grands acteurs français. Enfin voilà, tout est censé être raffiné, beau, la ville lumière et tout ça. Et puis bon, tous les gens qui vivent à Paris savent que c'est pas exactement ça. Et puis aussi, ils sont extrêmement heurtés par la saleté dans les rues, les incivilités, notre brutalité, notre impolitesse, la manière dont on nous parle dans un taxi, dans un café, dont les gens se parlent, s'engueulent, s'insultent dans la rue, etc. Et donc, elle, June, quoi, lui dit, voilà, elle aime la France, mais c'est un pays un peu barbare pour elle. Et puis, Nathan, lui, qui adore le Japon aussi, pour les mêmes raisons, pour cette idée du raffinement, de l'élégance, de la douceur, il va aussi se heurter, mais lui, de plein fouet, d'une manière qui va vraiment impacter considérablement sa vie, et même la mettre en pièces, à une autre forme de brutalité et de froideur, là, pour le coup, d'une justice aveugle, et aussi d'une incapacité liée à l'insularité, quoi, d'une certaine manière, et au fait que le Japon ne je ne vois pas pourquoi ils auraient des comptes à rendre à qui que ce soit, une incapacité à faire converger les lois. Parce que cette question de l'enlèvement de parental, c'est une question qui est soulevée par de nombreuses victimes. Et le gouvernement français, l'Europe même, essaye de conclure un traité pour que le droit tel qu'il est reconnu aux parents français soit applicable ou du moins au moins pris en compte au Japon en cas de séparation.
Oui, parce qu'on se rend au Japon avec Nathan, évidemment, dans le livre aussi, mais vous parlez d'insularité, il y a même une double insularité, puisque Il va sur une île en particulier, au Japon, île très spéciale.
Ouais, c'est l'île de Miyajima, qui est une île de la mer intérieure, hein, qui fait face à Hiroshima.
Et l'île des dieux.
Voilà, dont l'entrée est signalée par un immense torii qui semble flotter sur l'eau à marée haute. Hein. Un torii, c'est la porte d'entrée des sanctuaires. Et l'île entière est un sanctuaire. L'île entière est sacrée, c'est une île volcan qui est recouverte intégralement de forêts primitives. On n'a pas le droit de couper les arbres. D'ailleurs, théoriquement, on n'a pas le droit de naître ni de mourir à Miyajima. Et elle est aussi peuplée de daims en liberté et constellée comme ça de sanctuaires flottants, de temples nichés dans la montagne. Il y a aussi une flamme éternelle dont la flamme est entretenue depuis des centaines d'années. Donc c'est une île complètement magique. Très cinématographique pour Nathan qui vit dans le cinéma, il tient un cinéma et il est constitué par la fiction. Et aussi un peu une île qui a toujours fait sourire June, parce que c'est un peu comme le Mont Saint-Michel en France, si on veut. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour elle, c'est un truc de touriste un peu quand même. Elle dit que c'est beau, ok, mais c'est un truc de touriste. Et ironiquement, là encore, c'est là-bas qu'il va essayer de la trouver.
C'est terrible, mais en fait, la vie de Nathan, elle est peut-être un peu trop tranquille, un peu terne éventuellement. Ça lui fait vivre une aventure, cette histoire, quand même, si on veut voir le bon côté des choses.
C'est pour ça que j'ai décidé qu'il vivait dans la fiction. Quoi. Il a repris un cinéma qui lui a été légué par son oncle et il passe sa vie à regarder des films et à programmer des films. Et d'ailleurs, ses parents, quand il était étudiant, disent « Mais en fait, on dirait que rien ne t'intéresse à part mater des films, je ne sais pas ce que tu vas faire dans ta vie. » C'est ce qu'il fait dans sa vie. Et un peu comme les auteurs, un peu comme même comme les comédiens, enfin comme beaucoup d'artistes ou de gens qui diffusent la culture, il vit plus dans la fiction que dans sa propre vie et il a toujours d'ailleurs bien veillé à se tenir en lisière des choses, à se laisser un peu porter par le vent. D'ailleurs, il dit, moi, j'ai jamais voulu un premier rôle, hein, figurant dans ma propre vie, spectateur de ma propre vie, ça me suffit. Et sauf que là, il va vraiment être obligé, par la force des choses, d'agir et de sauver ce qui peut l'être et de montrer son attachement au sien et l'amour qu'il porte au sien en mettant tout en œuvre pour les trouver, quitte à se brûler les ailes et à se confronter à un véritable enfer qui est celui de la justice japonaise.
Et c'est cette quête qui va l'arracher à sa tranquillité, mais ça, c'est le point de départ de quasiment tous les romans finalement. C'est la définition, c'est le Seigneur des Anneaux et de la fiction en général, c'est Star Wars aussi.
Bah oui, enfin, c'est, on a une situation de départ, un élément perturbateur qui fait sortir dévier le personnage de son chemin.
Alors, c'est pas un roman d'aventure non plus, c'est pas un polar non plus, mais il y a quand même des accents de polar. Vous y allez sans y aller, je sais pas comment dire.
Je fais ça depuis longtemps. Hein. C'est dans le précédent livre, une partie de badminton, dans aussi dans Peine perdue, dans mes livres jeunesse aussi, dans les livres entre guillemets estampillés jeune adulte. Oui, mais en même temps, moi, quand même, j'ai une grosse culture de la littérature anglo-saxonne où cette frontière entre polar, roman noir et roman tout court. D'ailleurs, vous voyez, même éditorialement, en France, d'ailleurs, on ne sait pas comment faire. Il y a des livres qui sont classés dans des collections, je ne sais pas, chez Sonatine et tout ça, en roman noir, alors que chez Albin Michel, chez Terre d'Amérique ou chez Gallmeister, ils vont sortir comme des romans de collection blanche, alors que rien ne les différencie vraiment. Et puis moi, j'aime bien qu'on tourne les pages, quoi, quand même. Hein. J'aime bien trouver... je suis pas un auteur qui est là, le travail sur la langue, la méta-littérature,
mais justement,
tout ça. Moi, j'aime bien qu'il y ait une forme d'efficacité et qu'on ait... Donc, il y a une forme de suspense, de quête, d'enquête, et que...
Justement, vous voulez pas faire un bon gros Maigret ou un Sherlock Holmes avec une enquête et tout,
peut-être un jour, mais en fait, le truc, c'est que l'intrigue elle-même et la question de la résolution, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé un peu puéril comme moteur de lecture. Par contre, la manière dont ça se passe, la manière dont on vit avec la situation et les événements, ça m'intéresse plus que les événements eux-mêmes.
Mais comme dans Sherlock Holmes, on admire plus le personnage Watson aussi que l'enquête elle-même, finalement.
Mais il y a un policier dans ce livre, c'est un policier fan de cinéma qui s'identifie au commissaire Daoud, le héros du film d'Arnaud Desplechin, incarné par Roche Dizem, Roubaix, Une Lumière.
Vous avez rencontré ces pères complètement perdus?
Non.
Et est-ce qu'il y a des maires d'ailleurs, des maires françaises?
Il y a des maires, simplement la très grande majorité des couples occidentaux japonais, enfin mixtes, c'est souvent l'homme occidental, français, australien, américain, ce que vous voulez, et la femme japonaise, pour des raisons qui sont compliquées à expliquer, mais qu'on pourrait expliquer d'ailleurs, mais enfin, c'est pas le sujet ici, mais enfin, en tout cas, donc, de fait, c'est le principal cas. Mais moi, je suis tombé sur des cas incroyables, notamment, je raconte dans le livre, mais un Australien qui vit au Japon, qui est séparé de sa femme lui a appris les enfants, la loi japonaise lui a accordé les enfants, et lui, il n'a plus aucun droit, elle refuse... plusieurs fois, il a essayé d'entrer en contact avec ses enfants, avec sa femme. Il a été accusé de harcèlement, il a été accusé de tentative d'enlèvement. Il a eu des mises en garde très, très sévères de la part de la justice japonaise. Un typhon passe sur la ville où vit son ex-femme et ses enfants. Il va juste voir devant le domicile,
pour voir si tout va bien.
Si tout va bien, si la maison est debout et tout ça. La femme le voit, elle appelle les flics. Et là, il se prend 46 jours de garde à vue, parce que ça va vite, la garde à vue là-bas.
Ça rigole pas là-bas.
Ça rigole pas. Et il a été condamné avec sursis. Mais il a une mesure d'éloignement. C'est la prochaine fois qu'il ne serait-ce qu'il s'approche du domicile de sa femme ou qu'il essaie de prendre contact avec elle ou ses enfants. Il va en tôle pour de bon, quoi.
Alors, vous n'en avez pas rencontré, mais Nathan ressemble quand même un peu à un de vos personnages récurrents, Paul, qui, lui, vous ressemble beaucoup. Vous avez besoin de cette proximité ?
Alors, ça dépend des livres, mais c'est vrai que plus je vais justement sur des fictions qui sont des vies qui sont vraiment pas la mienne et des situations que je n'ai pas vécues, plus pour imaginer comment ça peut se passer, j'ai besoin quand même pour faire marcher l'intuition, parce que c'est comme ça qu'on fait. Hein, l'intuition, ça veut quand même dire faire déduction à partir de sa propre expérience. D'où le besoin que j'ai de me rattacher quand même à un personnage qui est une sorte de double. Et puis aussi, c'est un jeu entre les livres maintenant.
Avec les lecteurs aussi.
C'est un jeu avec les lecteurs. Et ce double, il a pris il a pris sa propre autonomie maintenant, quoi. Il a ses propres caractères, ses propres tics. Il a des défauts plus prononcés que les miens parfois, moins prononcés que les miens parfois. Je m'amuse à le trimballer de situation en situation et à tisser des échos entre mes différents livres.
Et on retrouve Nathan, et donc on vous retrouve un peu aussi dans Tout peut s'oublier chez Flammarion. Restez avec nous, Olivier Adam. Dans un instant, c'est le livre culte.
La Voix est livre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Olivier Adam. Tout peut s'oublier, c'est son nouveau roman chez Flammarion. Il est l'heure du livre culte et j'ai voulu vous faire plaisir, Olivier Adam. J'ai choisi Un pédigré de Patrick Modiano. C'est en fait une autobiographie de l'écrivain publiée en 2005. Mais enfin, tous les romans de Modiano sont aussi plus ou moins une forme d'autobiographie. Il me semble en tout cas toujours une quête, et souvent une quête de soi-même, avec son style si particulier, sa musique, des phrases courtes, sobres, et puis des lieux, des dates, des souvenirs. Voici la première page, lue par Philippe Dussault.
Je suis né le 30 juillet 1945 à Boulogne-Billancourt, 11 allée Marguerite, d'un juif et d'une flamande qui s'étaient connus à Paris sous l'occupation. J'écris « juif » en ignorant ce que le mot signifiait vraiment pour mon père et parce qu'il était mentionné, à l'époque, sur les cartes d'identité. Les périodes de haute turbulence provoquent souvent des rencontres hasardeuses, si bien que je ne me suis jamais senti un fils légitime et encore moins un héritier. Ma mère est née en 1918 à Anvers. Elle a passé son enfance dans un faubourg de cette ville, entre Kiel et Hoboken. Son père était ouvrier, puis aide-géomètre. Son grand-père maternel, Louis Bogertz, docker. Il avait posé pour la statue du docker faite par Constantin Meunier et que l'on voit devant l'hôtel de ville d'Anvers. J'ai gardé son longbook de l'année 1913 où il notait tous les navires qu'il déchargeait. Le Michigan, l'Elisabethville, le Santa Ana. Il est mort au travail vers 65 ans en faisant une chute. Adolescente, ma mère est inscrite au Faucon Rouge. Elle travaille à la compagnie du gaz et le soir, elle suit des cours d'art dramatique. En 1938, elle est recrutée par le cinéaste et producteur Jan van der Heyden pour tourner dans ses comédies flamandes. 4 films, de 1938 à 1941. Elle a été girl dans des revues de music-hall à Anvers et à Bruxelles, et parmi les danseuses et les artistes, il y avait beaucoup de réfugiés qui venaient d'Allemagne.
C'était la première page d'un pédigré de Patrick Modiano, lu par Philippe Dussault. Olivier Adam, le pédigré Modiano, ça fait partie de votre panthéon littéraire.
Oui, mais ce livre a un statut très particulier parce que c'est à la fois un très beau livre, mais en fait c'est un livre qui ne prend son sens que quand on est un fou de Modiano d'une certaine manière, parce qu'il dévoile, mais de manière très froide et clinique, toute une série de faits. Vraiment, voilà, c'est un livre très très factuel. C'est comme la boîte de voilà la boîte au trésor pour le lecteur Modiano, parce que on va vérifier ou non, infirmer ou non des intuitions qu'on avait eues en allant de livre en livre, et on va avoir les clés quoi, les clés de cette figure du père, cette figure de la mère, et aussi cette chose très importante autour de son frère Rudy qui est mort quand il était enfant, et qu'on ne retrouve d'ailleurs que dans Remise de peine, réellement. Remise de peine est un texte très particulier de Patrick Modiano.
Vous êtes un fou de Modiano en fait.
Où Modiano, c'est le seul livre où il dit tout le temps mon frère et moi. Mon frère et moi. Et je me suis toujours demandé s'il y avait une part autobiographique et pourquoi ce livre-là était le seul où il était question d'un frère. Et par exemple, dans le pédigré, on découvre qu'il a perdu son frère enfant. C'est tout un jeu de miroir. Mais pour moi, Modiano, c'est une seule et même œuvre. Quoi. Et le pédigré, c'est une boîte à outils qui vous permet de découvrir. Mais je ne conseillerais jamais à quelqu'un de commencer par un pédigré pour lire Modiano. Il faut lire un pédigré une fois qu'on a déjà lu une quinzaine de Modiano.
On commence par lequel ? Livret de famille ?
Oui, livret de famille, voyage de noces, je ne sais pas, on peut commencer par... dans les plus récents, quoi, Dora Brouder, La Petite Bijou... Mais celui-là est très particulier, voilà, parce qu'il prend son sens à l'aune des autres livres.
Vous avez peut-être entendu tout à l'heure, mais dans le générique de l'émission, on a une citation de Modiano qui nous dit « On écrit pour que quelque chose subsiste ». Vous en pensez quoi ?
Bah oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Tout peut s'oublier, mais j'en crois rien. Et c'est une lutte constante. Oui, bon, on écrit beaucoup pour sauver des choses. Justement, Tout peut s'oublier, ça me fait rire parce que j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, et je me rends compte de plus en plus que même si j'écris des fictions, j'ai jamais pratiqué l'écriture autobiographique de ma vie, à part un tout petit texte dans un recueil collectif chez l'Iconoclaste il y a longtemps. J'ai l'impression de plus en plus qu'il s'agit, même si c'est par la fiction, de figer des choses, des souvenirs, des impressions, des ambiances, des relations liées à ma propre vie, liées à la vie de mes proches, et même liées à l'état de la société française et du pays. Quoi. Il s'agit quand même, c'est pas pour rien qu'on imprime les livres, hein, il s'agit d'imprimer quelque chose.
À suivre, visite de bibliothèque. Et bon, alors cette semaine, petit événement quand même, nous nous rendons chez un ministre écrivain, Bruno Le Maire, c'est tout de suite maintenant.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
La Voix est libre continue, nouvelle page, on sort un peu du studio à la rencontre, tiens donc, du ministre de l'économie et des finances qui est aussi écrivain, Bruno Le Maire. Il publie son nouveau livre chez Gallimard. C'est pas un roman cette fois, mais un récit, L'Ange et la Bête, mémoire provisoire. Il y parle notamment de littérature. Allons fouiller donc avec lui dans sa bibliothèque. Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous. J'ai eu très peur parce que, en général, dans ces cas-là, on me dit « Oui, bah, il veut bien, mais ce sera dans son bureau. Mais il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de livres. » C'est jamais pareil que quand on est chez quelqu'un, évidemment, dans la bibliothèque personnelle.
Ah, ma bibliothèque est... chez moi, pas dans mon bureau. Il y a très peu de livres, d'ailleurs, dans mon bureau. Et c'est une partie de moi-même.
Je dis ça, mais... Alors, vous êtes mon premier politique dans cette séquence. Mais, en fait, on va y venir, vous êtes aussi écrivain. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous veniez pour une interview dans la matinale d'Europe 1, j'essayais de choper vous ou un de vos conseillers pour dire, est-ce qu'on pourrait aller visiter sa bibliothèque ? Parce que, effectivement, vous avez un lien très fort avec la littérature. Vous êtes même l'un des seuls politiques à avoir publié dans La Blanche, la collection prestigieuse de Gallimard. C'est vrai, vous êtes d'abord écrivain ou d'abord un politique ?
Bah, si on prend chronologiquement, je suis d'abord écrivain, puisque j'ai commencé à écrire très, très tôt. J'ai été publié un peu plus tard, mais j'ai écrit des nouvelles quand j'avais 18 ou 19 ans. J'ai commencé à écrire d'autres textes. J'ai été publié quand je travaillais avec Dominique de Villepin. Mais j'ai commencé par écrire et j'ai fait de la politique en fait beaucoup plus tard. Donc la politique est venue beaucoup plus tard.
Et c'est quoi votre rapport avec la littérature? Je veux dire, dans votre nouveau livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Écrire la politique de mémoire ».
Oui.
Et en fait, ça parle moins de politique que de la capacité de la littérature à fixer la mémoire. D'ailleurs, il y a un très joli sous-titre à votre livre qui est « Mémoire provisoire ». C'est ça aussi la littérature, c'est ancrer la mémoire?
Bah, je vais vous dire, c'est d'abord un plaisir, la littérature. Il y a des gens qui aiment regarder les oiseaux dans le ciel, c'est mon cas aussi, ou regarder la mer. Ça me procure le même plaisir de lire, d'être dans les mots, de découvrir un roman. C'est d'abord un plaisir. Il ne faut pas chercher forcément des choses très intellectuelles. Moi, j'ai un plaisir immense à découvrir un texte, à découvrir un univers, exactement comme on découvre un paysage. Ensuite, d'un point de vue plus politique, dans le travail littéraire que je fais, oui, ça sert à fixer les choses. Et si j'ai voulu écrire ce livre au milieu de la crise, c'est justement parce que je voulais approcher au plus près de la vérité. C'est trop facile d'écrire ses mémoires 5 ans, 6 ans plus tard, lorsque la poussière est retombée, et où, en général, soyons honnêtes, on recompose les choses à son avantage. Là, c'est écrit au milieu de la crise, avec tout le risque que ça représente, mais ça permet aussi, je pense, au lecteur d'approcher au plus près de la vérité de ce qu'est une crise politique et économique.
Vous savez bien, moi je ne fais pas du tout de politique, mais vous savez bien ce qui se passe quand un homme politique sort un livre alors qu'il exerce une activité politique, il y en a toujours pour dire « mais comment il trouve le temps d'écrire ?» Est-ce que ce n'est pas au contraire un gain de temps d'écrire pour pouvoir avancer ?
C'est exactement ça. Je pense que c'est un gain de temps. Je pense qu'on a besoin de s'extraire du cours des choses. Sinon, on est comme un hamster dans sa roue. C'est-à-dire que dès 6 heures du matin, on se met à travailler, on enchaîne les parapheurs, les réunions, les rencontres, les coups de téléphone, les émissions. Et puis, il ne reste rien, parce que vous n'avez pas eu le temps de réfléchir. Écrire, c'est s'arrêter. Et c'est très important de s'arrêter. Donc, moi, je m'arrête le matin, quand j'ai écrit ce livre, ou levé très précisément vers 5h, 5h30. À 6h, 6h30, vous êtes à votre table de travail, plutôt 6h. Vous avez 2 heures pour écrire devant vous. Et pendant ce temps-là, vous avez le temps de réfléchir à ce qui s'est passé et de comprendre ce que vous voulez faire et peut-être aussi d'améliorer ce que vous voulez faire. On a besoin de responsables politiques qui sachent s'arrêter.
Alors, venons-en à la bibliothèque, quand même, le cœur du sujet. C'est une bibliothèque classique, on est dans votre salon. Il y a 2 grandes bibliothèques remplies à ras-bord. C'est une bibliothèque de grands lecteurs, parce que ça se voit, parce qu'il y a des livres à l'horizontale placés au-dessus.
On n'a pas réussi à ranger, donc on essaie de les caser.
On veut les garder absolument quand même. Voilà. Et il y a une petite partie avec une vingtaine de pléiades. Et notamment, on parlait de la mémoire et de la littérature. Avant de commencer, je vous ai dit, est-ce qu'il y en a un qu'il faut qu'on vraiment... Ce serait dommage de passer à côté parce qu'il vous tient à cœur. Et vous m'avez sorti La recherche du temps perdu de Proust, qu'on trouve dans beaucoup de bibliothèques. Pourquoi ce livre en particulier? Justement à cause de cette question de la mémoire, parce que Proust, on rappelle, c'est toute l'objectif de La recherche du temps perdu, c'est de retrouver la mémoire par cette fameuse Madeleine qui inaugure le livre et puis ensuite tout le reste.
Alors bien sûr, il y a cette obsession du temps perdu qu'on retrouve dans la littérature. Ça a beaucoup de sens pour moi. Le temps passe, s'accélère, les jours disparaissent. Et finalement, la seule façon de les fixer, comme je le fais avec le pouvoir politique, c'est de les fixer par les mots. Les mots sont une photographie de ce qu'on a vécu au plus près de ce qu'on a ressenti. Mais je veux dire, c'est presque plus personnel que ça. Proust a été une révélation pour moi.
À quel âge ?
Et vers 16-17 ans, je me suis mis à lire La Recherche. C'est une recommandation d'un de mes professeurs de littérature. Et j'ai eu le sentiment, comme rarement en ouvrant un livre, de rentrer dans un monde qui m'a profondément touché. Le début du côté de chez Swann, quand le narrateur s'endort, que les rêves reviennent et qu'il est réveillé par son propre sommeil. C'est quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on est dans la campagne de Combray, qu'il voit le cours de la Vivonne, qu'il plonge les carafes dans l'eau fraîche du cours de la Vivonne. Tout ça, c'est un univers qui m'a profondément touché immédiatement. Le bourdonnement des buissons d'aubépine, la chaleur et le soleil qui fait fondre le clocher dans son ville. Tout ça, ce sont des choses qui m'ont profondément touché, bouleversé. Et c'est d'abord une émotion, Proust, avant d'être une réflexion.
Tout le monde connaît l'Incipit, qui est le plus célèbre de la littérature
longtemps,
française.
Longtemps, je me suis couché de bonheur.
Voilà. Mais moi, ce que je préfère, c'est la suite immédiate.
parfois, vous nous la lisez à peine
vous connaissez par cœur.
Éteinte,
enfin, on recommence.
Mes yeux se fermaient si vite que je n'avais à peine le temps de me dire « je m'endors ». Et une minute après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait.
Je suis obligé de vous demander de recommencer parce que je vous ai coupé, c'est trop dommage. Je ne savais pas que vous le connaissiez par cœur.
Oh, mais je peux vous réciter d'autres choses et c'est
moi,
des choses qui m'accompagnent.
Je vérifie.
Donc longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que j'avais à peine le temps de me dire « je m'endors ». Et une minute après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Cette idée que, en cherchant le sommeil, la pensée revient et vous réveille alors que vous étiez endormi, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Personne aussi bien que Proust n'a décrit le sommeil et les rêves.
Vous apprenez beaucoup de textes comme
oui,
ça par cœur ?
Pas que du Proust, du Stendhal, des poèmes, parce que ça vous accompagne. C'est comme des musiques. C'est-à-dire quand vous avez des moments douloureux, des moments difficiles, ben vous avez ces textes qui vous reviennent à l'esprit. Quand vous prenez, par exemple, pour parler du pouvoir, vous avez des moments qui sont parfois glaciales dans le pouvoir. Vous sentez qu'il y a une colère sourde, que dans la pièce règne une forme d'hostilité. Moi, ça me fait toujours penser à ce passage extraordinaire de Saint-Simon, où Louis XIV est dans une colère noire. On ne sait pas pourquoi, il est dans une colère noire. Mais tous les courtisans qui sont dans la salle sentent bien que le roi est de très mauvaise humeur. Et Saint-Simon dit... Il se fit un silence à entendre une fourmi marcher. C'est extraordinaire. Donc parfois, quand je suis dans ce genre de situation, je me rappelle Saint-Simon, tiens, il se fait un silence à entendre une fourmi marcher en ce moment.
C'est la variante de la mouche qui vole. Quoi.
Exactement.
Alors, on va y venir. Il y a beaucoup de choses. Il y a très peu d'essais, heureusement pour moi, parce que c'est le risque aussi quand on va chez un homme politique. Il y a beaucoup, beaucoup de romans, quasiment uniquement des romans. Beaucoup d'écrivains américains aussi.
Oui.
Et notamment Walt Whitman. On va y venir, mais qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous séduit chez les écrivains américains ?
Alors, chez Walt Whitman, c'est la nature. Et je le redisais aussi sur Proust, sur la vivonne, sur les prairies, sur le vent, le ciel, la manière de décrire ce qui nous entoure, qui est très physique, comment est-ce que la nature nous entoure. Whitman décrit ça à merveille. Les forêts, les feuilles d'automne, les odeurs, la mousse, l'humus, les lacs, tout ça, il décrit ça remarquablement, donc ça me touche profondément. Et ce qui, chez les auteurs américains, me plaît au-delà de tout, c'est ce sentiment de liberté sans aucune limite. La littérature européenne est une littérature du détail, de l'attention, c'est Proust, justement. La littérature américaine, sans trop généraliser, c'est l'immense liberté, liberté morale. On l'a avec Philip Roth, par exemple, quand il publie Portnoy et son complexe, c'est d'une liberté sexuelle, morale, tout à fait invraisemblable. Une liberté de l'espace, parce que c'est des immenses espaces. Et puis, une liberté de construction, de style qu'on a chez Faulkner. Moi, je suis un fan absolu de Faulkner, parce que tout d'un coup, il vous fait voir un monde radicalement différent, vu à travers le regard d'une personne qui a un retard mental, vu à travers le regard d'une jeune fille noire qui est opprimée. Et ça, tout d'un coup, c'est vraiment, pour moi, ce qu'est fondamentalement la littérature, l'ouverture à des mondes que vous n'auriez pas découvert autrement.
Alors, Walt Whitman, on va rappeler, c'est le héros, en fait, du cercle des poètes disparus. C'est Capitaine, ouais. Mon Capitaine.
C'est Capitaine, mon Capitaine. Mais il n'a pas écrit que ça.
Ben voilà. C'est peut-être même pas du tout son meilleur poème.
Non, tout à fait.
Mais est-ce que vous en avez un, justement, préféré, un favori ? Est-ce que vous en connaissez un par cœur, chez Walt Whitman ?
Je n'en connais
est-ce
pas.
Est-ce que vous le lisez en français ou en anglais ?
Je lis beaucoup en français. Je vais être très honnête. Lire en anglais, ça m'arrive... lorsque j'ai des passages qui me plaisent beaucoup, mais la plupart du temps, je les lis en français. Quand il y a un passage qui me plaît beaucoup, après, je le lis en anglais. Je fais plutôt dans ce sens-là.
Voir comment c'est fabriqué.
Mais on peut prendre, par exemple, la vue du fleuve Hudson. La nature a aplani le terrain. On est sûr d'avoir du vent dans la face. On ne gêne personne. Je vois, j'entends les locomotives et les wagons grondant, rugissant, crachant des flammes et de la fumée sans cesse là-bas, jour et nuit, à moins d'un mille, et sous mes yeux les jours. J'aime la vue, le bruit, l'espace qui ne finit pas, les trains express qui passent dans un tonnerre de lumière, pas moins d'une centaine de trains de marchandises par jour, la plupart très longs. De nuit, la rivière a ses beautés particulières, les pêcheurs d'Alose sortent dans leurs barques, posent leurs filets, marquent la ligne avec de petits flotteurs qui portent des bougies et communiquent en glissant sur l'eau le sentiment indescriptible d'être à la lumière en même temps que le reflet.
C'est dingue, on entend le...
Exactement,
train,
on voit le paysage et on voit justement cette liberté des grands espaces américains. Donc voilà, on est chez soi, on a le livre et puis on est parti.
Vous avez y compris des livres assez sulfureux, hein, du Bret Easton Ellis, par exemple.
Oui, je suis pas un grand fan.
Psycho. Il est là,
mais je suis pas un grand fan.
Oui, c'est pas forcément un panthéon.
Ça m'intéressait. Non, c'est pas forcément un panthéon. Il y a des livres que vous lisez parce qu'on en parle beaucoup et puis ils vous enthousiasment ou pas.
Est-ce que la littérature a à voir ou non avec la politique? Je parle pas de la politique profonde, de défendre une idée complexe et globale de la vie du monde, etc. Mais est-ce qu'il y a des auteurs, vous considérez qu'il peut y avoir des auteurs de gauche, des écrivains de droite? Est-ce que ça peut éventuellement vous faire lire plutôt celui-là que celui-là? Ou
absolument
évidemment
pas.
Non.
Non, vraiment pour moi, évidemment non. Un auteur n'est pas de gauche ou de droite. En général, les auteurs engagés, c'est en règle générale des catastrophes. Un auteur, c'est le reflet le plus juste, le plus aiguisé de ce qu'est la société. Et c'est en cela que la littérature est politique. Ce n'est pas uniquement parce que c'est des mots et que la politique, c'est aussi les mots. Le point de jonction de la politique et de la littérature, c'est évidemment les mots, c'est le langage. Mais c'est aussi que certains auteurs touchent au plus près de la réalité de la société. L'exemple pour moi actuel le plus caractéristique, c'est évidemment Michel Houellebecq. Michel Houellebecq...
Qui est là, d'ailleurs.
Qui est là et qui est très présent parce que je pense que c'est une vision de la société que je ne partage pas nécessairement, mais qui est tellement juste, tellement pointue, tellement douloureuse d'ailleurs parfois, que si on veut comprendre notre société contemporaine, il faut lire Houellebecq, bien sûr.
Oh, mais il est dédicacé, je ne lis pas.
Hein, oui, il est dédicacé.
En fait, j'avais pris le livre parce que il y a un des... C'est Intervention 2020. Et voilà. Et en fait, le premier article, il s'intitule... C'est horrible. Mais ça s'appelle Jacques Prévert est un con. Il déteste Jacques Prévert.
Mais oui, mais c'est bien.
Mais voilà.
C'est pour ça qu'on lit. C'est pour avoir des gens qui disent des choses que vous ne pouvez pas dire.
Ils bousculent.
Voilà, qui bousculent. Enfin, la littérature, fondamentalement, c'est ce qui vous bouscule au plus profond de vous-même. C'est des rencontres, exactement comme des rencontres humaines. Et la vie n'est faite que de rencontres. Donc, de rencontres humaines qui vous bousculent ou de rencontres littéraires qui vous bousculent aussi, qui vous font voir les choses différemment et puis qui disent des choses que vous n'osez même pas vous avouer à vous-même et qui, dans le fond, sont plus justes que ce que vous pouvez vous avouer à vous-même.
C'est les meilleurs moments de littérature, d'ailleurs.
C'est les meilleurs moments de littérature, quand tout d'un coup, on se dit...
On sait plus quoi penser.
Voilà, exactement.
On ouvre sur une nouvelle vision du monde.
On ouvre sur une nouvelle vision du monde et on se comprend mieux soi-même. On se comprend beaucoup mieux soi-même.
Je vois... Au fond, à droite, on va vraiment être amis aujourd'hui, monsieur le ministre. Toute la collection quasiment des romans de Jean Echenoz. Vous êtes particulièrement fan de Jean Echenoz
oui.
Aux éditions de Minuit. Grand auteur, prix Goncourt.
Oui, c'est un très grand auteur.
Auteur de Ravel, notamment, de Courir, qui sont des biographies romancées comme ça, aériennes, très très belles. Et puis de Je m'en vais, le prix Goncourt, et puis Chiroqui, etc. Qu'est-ce qui vous plaît chez Jean Echenoz?
Qui n'est pas d'ailleurs son meilleur, comme quoi on a parfois
le Goncourt. Oui, je suis d'accord avec vous.
Ravel, pour moi, est absolument extraordinaire.
C'est Courir.
Courir est extraordinaire.
La biographie de Zatopek, en fait, le coureur de fond. Et puis Des éclairs, la biographie de Nikola Tesla.
Exactement.
Superbe.
Mais bon, d'abord, c'est un style, c'est un maniement de la langue qui est tout à fait exceptionnel. Il y a beaucoup d'admiration aussi chez Echenoz. Et c'est une chose que j'aime beaucoup parce que c'est un sentiment qui est souvent dévalorisé, que je crois très important dans la vie. On le sent porté par une admiration, un intérêt pour ses personnages. Par exemple, pour la vie de Ravel, c'est extraordinaire. Il décrit la façon dont il prenait ses bains, dont il s'habillait. Donc, c'est extraordinaire. Donc oui, c'est un grand auteur et que j'apprécie beaucoup.
Alors, Jean Echenoz, il y a quelque chose d'assez joyeux, sautillant même,
oui.
Et puis bon, très très beau dans le style et tout ça. Il y en a un autre qui manie le style avec virtuosité, mais qui est beaucoup moins l'emblème de la joie de vivre, c'est Cioran. Et j'en ai vu plusieurs exemplaires, il y a les cahiers de Cioran à la NRF, et puis le cahier de Lerne de Cioran, qui est donc Cioran, un écrivain, un poète... très, très désespéré. L'un de ses livres les plus célèbres, ça s'appelle « De l'inconvénient d'être né » quand même. Vous plongez parfois dans la mélancolie avec Cioran ou qu'est-ce qui vous plaît chez lui?
Ce qui me plaît, c'est effectivement cette noirceur, ce désespoir qui vous aide paradoxalement à retrouver de l'espoir. C'est un auteur contre lequel on lutte. Contre lequel je lutte en le lisant.
Ah oui.
En me disant, tiens, je ne suis pas d'accord. C'est brillant, c'est fort, c'est puissant. Mais je le lis pour lutter contre lui. Et justement, pour retrouver de l'espoir, de l'enthousiasme, en lui disant, non, on va combattre Cioran. Science, c'est un auteur qui doit être combattu, qui est merveilleux, fort, puissant, mais pour être combattu.
Alors, je vois qu'il y a aussi un exemplaire de Karl Ove Knausgård, qui est un écrivain scandinave génial. Mais enfin, on l'adore ou on le déteste. Hein. Moi, j'adore. Et c'est un écrivain qui s'est fait connaître parce qu'il a commencé à écrire une sorte de télé-réalité littéraire où il parle de lui, mais il dit tous les détails de sa vie, y compris les plus insolites ou les plus dérangeants pour lui-même. Et donc, c'est la question de la pudeur là-dedans. Est-ce que, quand on écrit, il faut tout lâcher et tout dire ?
Alors, moi, je ne peux pas tout lâcher et tout voilà. dire. Il faut d'ailleurs le reconnaître et l'admettre lorsqu'on écrit et qu'on est en fonction. Mais Karl Ove Knausgård, il n'est pas forcément très connu en France. Pour moi, c'est peut-être la révélation littéraire la plus importante de ces 10 dernières années.
Vous êtes dans mon camp.
C'est un auteur absolument bouleversant, qui a fait un choix littéraire absolument radical, qui est de raconter tout de sa vie, dans le moindre détail, sa femme, ses enfants, ses amis, tous ses sentiments, toutes ses maladresses, tout de ses mauvais comportements et de ses échecs, qui, à partir de là, bâtit une œuvre littéraire totalement renouvelée, où il ne se passe pas forcément grand-chose, mais vous êtes pris parce que vous avez vraiment le sentiment d'être au cœur de son existence. Donc je le recommande parce qu'il est peu connu et c'est vraiment un auteur très, très touchant, très poignant et qui a une approche de la littérature radicalement nouvelle.
Et moderne et jubilatoire, je veux dire.
Jubilatoire.
On ne s'ennuie pas une seconde en
lisant. On s'ennuie pas une seconde en le lisant.
Mais ça peut être pas mal de s'ennuyer aussi parfois en lisant. Ça peut être une bonne chose, à mon avis. Je trouve Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, là, qui me fait penser à Une chambre à soi, un autre roman de Virginia Woolf, dans lequel elle explique que pour un écrivain, il faut un endroit à soi. Et comment vous faites-vous pour avoir un endroit à vous, puisque vous êtes sollicité sans arrêt, toujours entouré de policiers pour votre sécurité? Est-ce que vous pouvez trouver une bulle pour justement écrire correctement?
D'abord, un petit mot sur Virginia Woolf, parce que ça fait partie de mon panthéon. C'est une femme pour laquelle j'ai énormément d'admiration. Pour le coup, on peut s'ennuyer beaucoup dans Virginia Woolf. Mais malgré tout, on est toujours pris par son atmosphère, la subtilité des sentiments qu'elle exprime. La promenade au phare, pour moi, c'est un des plus beaux textes de la littérature britannique. C'est vraiment un très, très grand texte. Et puis, c'est de la littérature écrite par des femmes. Et j'attache beaucoup d'importance à cette littérature-là, qui est différente, où il y a un regard qui est différent. On a aujourd'hui beaucoup de femmes écrivains en France qui sont de tout premier plan. Je pense à Marie-Anne Diaye qui vient de sortir un très beau texte.
Élise de
Je
Carangal.
Pense à Marie Dariussec, Marie de Carangal, qui a écrit des textes magnifiques aussi. Et je pense que c'est une des forces de la littérature française d'avoir des femmes écrivains aussi puissantes. Après, j'écris soit au bureau, qui est juste dans la pièce d'à côté, tôt le matin, quand les enfants ne sont pas encore réveillés, soit au Pays Basque, soit dans les chambres d'hôtel. Il y a un très bon endroit pour écrire, c'est quand vous êtes en déplacement, les chambres d'hôtel, c'est anonyme. Et donc on y écrit très bien.
Mais là, on écrit du Houellebecq, hein, tout seul dans une chambre d'hôtel. D'ailleurs, j'étais allé à l'occasion de la sortie de Sérotonine pour Europe 1. J'avais fait un duplex pour la matinale. Et après avoir passé la nuit dans l'hôtel Mercure de la place d'Italie, qui est décrit dans le roman. Pour essayer de voir quelle était cette solitude houellebecquienne.
Ah, la chambre d'hôtel est formidable pour écrire.
Il y a quelque chose comme ça.
Il y a une table, il y a une lampe, il n'y a rien d'autre. Et donc, on y est très bien pour écrire.
Je vois aussi quelques textes érotiques. Et ça me fait penser à une chose. C'est qu'à l'occasion de la sortie d'un de vos romans, vous décrivez une scène érotique. Et ça ricane. Je veux dire, alors, parce que vous avez des fonctions publiques, etc. Mais j'étais un peu outré, en fait, d'entendre des ricanements parce qu'il y a une scène érotique dans un roman. C'est quand même, on a un problème avec ça encore ou quoi? Ça fait quand même partie de la vie. Et donc, c'est forcément dans un roman.
C'est forcément dans un roman.
Est-ce que vous retenez la plume, vous, du coup?
Peut-être que j'aurais dû aller plus loin. Après tout, il y a peut-être eu moins de ricanements si j'avais été encore plus loin dans la scène érotique. Je veux dire, ça n'a pas grande importance pour moi. Il y a toujours des ricanements. Ils font partie de la vie politique. Et ce n'est pas cette réaction-là qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les lecteurs, c'est les gens que vous rencontrez qui n'appartiennent pas forcément à la vie politique, le plus souvent, qui apprécient vos textes et qui vous font des retours sur le texte avec lesquels vous échangez.
Alors, je vois aussi qu'il y a tout un pan. Alors, elle est rangée par collection, en fait, cette bibliothèque. Et là, il y a tout un pan de la NRF Poésie, la belle édition qui effectivement crée avec une petite...
une petite photo sur la tranche aussi, enfin un petit portrait sur la tranche de l'auteur. Et sinon, le reste est blanc. Et donc, ça fait une très jolie bande comme ça de livres. Est-ce que vous avez attaché une importance ? Alors, à côté, il y a toutes les éditions de Minuit. Est-ce que vous attachez une importance à l'éditeur et à l'esprit qu'il dégage et à l'esthétique aussi de ces livres ?
Oui, c'est-à-dire que le livre, l'objet livre a de l'importance. Les éditions de Minuit, alors c'est pas mon éditeur, il va pas être content, mais c'est pas grave. Les éditions de Minuit, c'est dépouillé, c'est sobre, c'est un bel objet. Là, j'ai pris du Claude Simon, que j'aime beaucoup. C'est important. La collection blanche de Gallimard, c'est aussi quelque chose comme objet, comme signe, qui est important. La collection de la poésie, on voit effectivement les portraits de Rimbaud, de Lamartine, d'Aragon, d'Aimé Césaire. Je trouve que ça crée une relation particulière au texte. Donc l'objet livre a de l'importance pour moi. Quand je dis l'objet, c'est pas du tout les vieux livres, les collections de références et tout ça. Ça, je n'y attache aucune importance.
Il n'y a pas de livre ancien, d'ailleurs.
Non, il n'y a aucun livre ancien. D'ailleurs, je n'aime pas beaucoup les livres anciens. Mais en revanche, la collection est importante pour moi. Il y a une collection que j'aime beaucoup, c'est Folio.
Les livres de poche de chez Gallimard.
Réinventé de chez Gallimard. C'est des super objets, ça se met dans une poche, ça se met dans un sac, dans un sac de voyage, vous l'avez avec vous, et c'est très physique. J'aime pas, par exemple, du tout les tablettes, je lis pas sur les tablettes, sur Kindle ou autre. J'aime bien l'objet, la page, le papier,
l'impression. Et on n'a pas peur de les abîmer.
Non, on n'a pas peur de les abîmer, c'est bien, et puis ça coûte pas cher, c'est important aussi. Ça ne coûte pas cher, un folio. C'est beaucoup de plaisir pour pas cher.
Vous les martyrisez, les livres, vous les annotez, ou alors est-ce que vous faites partie de ceux qui non, veulent surtout pas corner une page, il faut que
alors je corne pas les pages, jamais, ça, je n'aime pas ça du tout, j'aime pas casser une page, j'ai l'impression que je casse quelque chose, mais parfois je souligne, alors vous voyez, je prends un auteur qui est très peu connu, mais qui est une femme exceptionnelle, qui s'appelle Herta Müller, qui écrit en allemand, qui est d'origine roumaine, et donc il y a des passages que je souligne.
Au crayon de bois, quand même.
Au crayon.
Pas exagéré.
Voilà, ça rejoint ce que je vous disais, mais elle le dit évidemment mille fois mieux que moi. Lire des livres, ou même en écrire, est un secours. Lorsqu'il me faut expliquer pourquoi un livre me paraît incisif et un autre futile, je ne peux que signaler la densité des passages qui provoque cette course folle dans ma tête et ne tarde pas à entraîner mes pensées au-delà du séjour des mots. Plus ces passages sont fréquents, plus le texte est incisif. Plus ils sont rares, plus il est plat. Pour moi, il n'y a jamais eu qu'un seul critère de la qualité d'un texte, savoir s'il provoque ou non cette course folle dans ma tête, en silence.
Parfait, je crois qu'il faut qu'on s'arrête là, sinon on aura l'air idiot après des mots comme cela.
Ces mots sont fabuleux.
Merci beaucoup, monsieur le ministre.
Merci à vous.
À bientôt, merci.
De retour en studio, et je rappelle le titre du livre de Bruno Le Maire, « L'ange et la bête, mémoire provisoire » chez Gallimard. Et chez vous, Olivier Adam, comment ils sont rangés les livres ? Est-ce qu'il y a un classement d'abord ?
Ah, il y a une lutte, parce que moi je les mets n'importe comment, et ma compagne, elle, essaye de les remettre dans l'ordre. Alors elle est pour l'ordre alphabétique, mais on a un coin à part, c'est bizarrement, mais ça nous ramène à mon livre, c'est la littérature japonaise qui est toute seule dans son coin, en dehors de tout le reste. Après,
comment vous expliquez ça ?
Je ne sais même pas, c'est à un moment donné, je crois que c'était pratique, quoi. C'est parce que ça a dû s'instituer au moment donné où je devais écrire Le Cœur Régulier. Je pense qu'il y a aussi un livre qui se situe au Japon et où je voulais avoir les livres importants dont j'avais besoin, des livres japonais importants à disposition, je suppose. Mais voilà, c'est une bizarrerie, mais la littérature japonaise a une espèce de bibliothèque à elle toute seule. Et sinon, voilà, c'est les romans, hein, et les nouvelles. Donc avec ce désordre que j'entretiens et l'ordre qu'essaie d'y remettre ma compagne. Et puis par contre, les
autres catégories.
On a beaucoup de romans graphiques et de bandes dessinées, beaucoup de livres pour enfants, de livres jeunesse, et quelques essais et des livres d'art. Mais ça, voilà, chacun a sa place. Quoi.
Dans un instant, plein d'autres livres. Il est l'heure des libraires. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Retour de La Voix est libre, direction la librairie pour un conseil littérature, deux conseils même. Nous partons chez Stan, librairie Lamartine à Paris, Stanislas Rigaud.
Bonjour Stanislas Rigaud.
Bonjour Nicolas.
Toujours masqué ?
toujours masqué, mais toujours plein de livres.
Et toujours des clients, ça c'est la bonne nouvelle.
Et toujours des clients, c'est la bonne nouvelle. Effectivement, on a fait un Noël historique. Je crois que tout le monde sait qu'effectivement, de très nombreux libraires ont fait un Noël formidable. Et vraiment, merci à tous d'être venus soutenir la librairie, notamment la librairie indépendante. Et le démarrage de l'année est plutôt pas mal. Alors, il faut dire qu'on est poussé par une bonne rentrée. Donc, il y a un élan qui se tient.
Et votre barbe aussi se tient, c'est pas très radiophonique, mais j'ai remarqué hein, derrière le masque.
Ça, c'est le masque, justement.
C'est l'effet Père Noël. Alors, vous avez deux coups de cœur à nous proposer, je vous écoute.
Oui, en fait, forcément, il y a beaucoup de lectures là en ce moment. Moi, j'ai beaucoup aimé le Yasmina Reza, qui est très très bien, mais voilà, l'idée était de parler de deux titres dont on parle peut-être un petit peu moins. Alors, à commencer par Graham Swift, Le Grand Jeu aux éditions Gallimard. Alors, Graham Swift, c'est un auteur anglais qu'on adore et qui sort un livre qui est une fois de plus, une magnifique pépite. C'était l'auteur, vous vous souvenez peut-être, d'un formidable livre qui, il y a quelques années, qui s'appelait Le Dimanche des Mères, qui avait été un gros, gros coup de cœur de très nombreux libraires et un beau succès. Et celui-ci est totalement à la hauteur, effectivement, des attentes. Petit roman qui nous plonge dans l'Angleterre de la fin des années 50 à Brighton, la station balnéaire. Et on va suivre un trio. Jack, qui est un monsieur loyal d'une espèce de cirque en front de mer. Et il a fait venir Ronnie, son meilleur ami, entre guillemets. C'est, enfin, un type dont il est très, très proche et qui est, lui, magicien. Et ce Ronnie arrive avec son assistante qu'il a demandé en mariage. Ils sont fiancés. Voilà. On va suivre ce qui va se passer sur ce trio. Forcément, les choses ne vont pas vraiment se dérouler comme prévu. C'est merveilleux, il faut le marteler, c'est merveilleux. C'est-à-dire que c'est un tout petit livre et comment un aussi petit livre peut contenir autant de beauté, je ne sais pas. C'est vraiment, c'est réjouissant. Je ne sais pas comment vous dire, c'est vraiment un baume au cœur, malgré le fait qu'on ne s'amuse pas beaucoup dans ce livre, car l'histoire est assez poignante.
C'est bon signe quand on ne sait pas comment le dire en général. Graham Swift, Le Grand Jeu, c'est chez Gallimard Collection du Monde Entier, merveilleuse collection de romans étrangers. Vous avez un autre roman d'un écrivain que j'adore, britannique, que j'adore mais qui est un peu sulfureux.
Voilà, alors c'est Le Grand Retour de Martin Amis avec Inside Story chez Kalman Levy. Alors, hors norme en termes de volume, c'est un gros livre. De fond et de forme. De fond parce qu'en fait, M. Martin Amis vous dit « je vais écrire mon autobiographie » et en même temps, il vous dit « non, en fait, ça m'amuse pas beaucoup, donc en fait, je vais raconter peut-être ce que je veux. » Et il raconte ce qu'il veut. Et donc, on va déambuler au travers des années Martin Amis. C'est drôle, c'est brillant, c'est énervant, c'est... Enfin, on en prend plein la figure, ça donne une tonne d'envie de lecture parce que Martin Amis adore la littérature et n'arrête pas de faire des ponts avec des grands auteurs, avec des grandes œuvres, c'est bourré de citations. Il y a des digressions politiques, il y a plein de notes de bas de page. Donc le livre part dans tous les coins, mais c'est vraiment sa force. C'est-à-dire que pour beaucoup de livres, c'est un énorme défaut, pas là. Là, en fait, on subit ce feu d'artifice pendant des pages et des pages et des pages, et on en redemande, en fait. C'est un gros coup de pied au derrière de ce début d'année, avec un auteur souvent irrévérencieux. Autant dire que la France et les auteurs français ne sont pas toujours à la fête dans ce merveilleux ouvrage de Martin Amis.
Oui, c'est ce que j'allais dire, il aime la littérature, mais pas trop la française, enfin, en tout cas pas la française contemporaine.
Bon, il faut lire. Il faut lire, mais il a de saintes colères. Il a, enfin voilà, c'est, en fait c'est nourrissant, c'est vivifiant. C'est un livre qui appelle énormément d'adjectifs. Mais la première chose, c'est que ça fait extrêmement plaisir de te confronter à un ouvrage qui n'est pas ce que lui-même appelle profilé. D'ailleurs, c'est une des parties du livre où il évoque comment le roman s'est adapté à l'époque et forcément en s'affûtant, ce qui n'est pas toujours non plus un signe de très bonne qualité. Et là, c'est tout le contraire. C'est trop gros, c'est trop digressif et en même temps, c'est ça ce qui fait la force de ce livre formidable qui est un grand livre de littérature.
Martin Amis, Inside Story chez Kalman Levy. Merci beaucoup, Stan.
Merci, Nicolas.
À bientôt.
À bientôt.
Retour à Europe 1 et nous sommes rejoints dans un instant par ce grand enfant de Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. A tout de suite.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, vous nous présentez non pas un, mais deux albums.
Bah oui, bien sûr.
Et le premier, ça s'appelle La plus mignonne des petites souris.
Oui, c'est un très joli conte à lire aux enfants. En fin de maternelle, voici la famille ronge tout, le papa, la maman et surtout la fille qui sait tout faire. danser, tricoter, cuisiner, jouer du piano. Ses parents n'ont donc qu'une idée en tête, marier leur jolie petite fille au plus puissant personnage du monde. Voilà l'idée, habillé de sa plus belle redingote, son père va d'abord rencontrer le soleil. Pour lui, le personnage le plus puissant, ça ne peut être que le soleil. Ce dernier le renvoie vers le nuage d'à côté, capable de lui faire de l'ombre, puis le vent, et ainsi de suite, chacun estimant modestement ne pas être le personnage le plus puissant du monde. Bien sûr, je vous laisse découvrir la fin.
Pas mal, pas mal. Et le deuxième alors ?
Alors là, c'est l'histoire de petite sœur Lynn, petite fille qui se rend au marché pour vendre un sac de riz. En chemin, elle croise un canard, un panda et un singe à qui elle offre une poignée de riz. Puis, petite sœur Lynn voit se dresser sur sa route un immense dragon qui veut lui voler l'intégralité de son sac. Et grâce à sa générosité auprès des trois animaux qu'elle a rencontrés juste avant, cette petite fille va réussir à affronter le dragon.
Ah bah racontez la fin, vous, carrément.
Ah non, non, je dis pas tout, Vous, vous verrez en lisant la suite.
À partir de quel âge ?
Alors, ce sont vraiment deux contes pour les plus petits à lire à partir de 4-5 ans, de vieux contes en réalité. Le premier date de 1953, la plus mignonne des petites souris. Et le deuxième, du début des années 2000, ils font partie en fait d'une dizaine de contes réédités dans un petit format, un prix très accessible, 5 euros l'album. On retrouve d'autres classiques, La Vache Orange, Grand Loup et Petit Loup, une réédition pour fêter en fait les 90 ans des éditions Pierre Castor.
Et on rappelle les titres, La plus mignonne des petites souris d'Étienne Morel et Les trois grains de riz d'Agnès Berton-Martin et Virginie Sanchez. Deux albums à retrouver aux éditions du Pierre Castor. Merci beaucoup Victor.
Avec plaisir.
Olivier Adam, vous, c'est quoi le premier roman que vous avez lu, vous vous en souvenez ? Pas forcément un livre jeunesse.
Le premier livre jeunesse dont je me souviens mais qu'on me lisait, que je n'ai pas lu lui-même, c'était Les trois brigands de Tommy Ungerer. Voilà.
D'accord.
Après, j'ai eu l'honneur de Victor publier Delon à l'école des loisirs. Donc voilà. Et qui publiait Tommy Ungerer. Sinon, je crois que le premier livre que j'ai lu pour moi vraiment et qui m'est marqué, c'est pas très original, mais c'est L'écume des jours de Boris Vian. Je devais être en
13-14 ans alors.
Ouais, en 6e ou en 5e. Et c'est vraiment le premier souvenir marquant où d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre, où on se dit ah ouais, en dehors de ce qu'on nous apprend à l'école, ah ouais, ça peut être ça, ça peut être cette liberté-là, ça ouais. peut être cette folie-là, ça peut être ce style-là, cette noirceur-là aussi, parce que. Voilà, tout le deuxième mouvement du livre est quand même assez sombre. Puis cet humour et en même temps ce romantisme, cette sorte de lyrisme asséché par l'humour et par la fantaisie. Quoi.
Vous l'avez relu depuis ? Parce que moi je trouve ça bien de lire à 15 ans.
Je l'ai lu parce que j'ai fait du théâtre amateur et on avait fait tout un spectacle autour de Boris Vian où je faisais le pianiste, je chantais les chansons, etc. Mais on avait travaillé aussi sur... Donc je l'ai relu après, ça tient toujours la route. Et d'ailleurs j'ai regardé, comme je m'intéresse beaucoup au cinéma, les différentes adaptations, la très ancienne... Et puis celle de Michel Gondry, voilà, et qui est très sombre d'ailleurs dans son deuxième mouvement pour le coup.
Très poétique grise. Aussi. Tout peut s'oublier, c'est le dernier roman d'Olivier Adam chez Flammarion. Merci beaucoup Olivier Adam.
Merci à vous, merci d'avoir reçu.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Baczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1.